Bon, ben, Pasteur W, je pense que tu vas avoir tout le temps de découper ta dinde en plastique. Et je voudrais particulièrement saluer mes frères afro-américains qui ne sont pas tombés dans le piège macho-patriotique, macho-évangélique, des machines à voter, des machines à penser. Ouais, je crois que je vais bien dormir cette nuit.
C'est pas pour me vanter, mais il fait beau aujourd'hui. Voilà, journée historique. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est Bernard de Marseille. Bah écoute, là il est 1h15, donc je vais encore attendre un peu histoire d'être sûr. Mais enfin, si c'est le scénario si le scénario se précise, je vais me coucher, puis vous me réveillez dans 4 ans, vous êtes gentil, parce que là, moi, de toute façon, j'ai pas trop envie de regarder tout ça. Et puis finalement, bon, hein, on est mieux couché. Allez, bonne nuit à tous, ciao.
Bonjour, c'est Brigitte, il est 8h du matin, j'entends en me réveillant que ça va être encore bouche. Eh ben, j'ai qu'un mot à dire, c'est merde. Voilà. Dans les deux sens du mot, d'effondrement, et puis bon courage à tous ceux qui vont être gênés par cet homme-là, en Irak en premier, puis aux États-Unis aussi. Voilà, merde.
Well, this is George W. Bush, and now I'm gonna attack France and Germany, because I'm the best, I'm the strongest you ever see, and we're gonna fight the world, all the world, yes. I fuck every them. Ciao.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Alors, je pense que votre répondeur va être saturé. Moi, je voulais juste vous remercier pour les reportages sur les États-Unis. Enfin bon, j'ai l'impression d'être la seule. À ne pas être surprise de ce résultat qui n'est pas encore tombé. Mais enfin bon, on pouvait franchement s'y attendre, quoi. C'est. Ah, je suis pas ravie, c'est loin de là, mais je vous embrasse et puis je vous remercie parce que vous au moins vous les avez écoutés, puis en les écoutant bien, il y avait pas quoi être surpris. Voilà, je vous embrasse. Au revoir, continuez.
Bonjour, c'est Benjamin. Aujourd'hui, 3 novembre 2004, 1461e jour de règne pour George Walker Bush. Attendons-nous à voir fleurir les tombes. N'oublions pas de résister. C'est la guerre. Salut.
Salut Daniel Mermet. Voilà, je voulais féliciter George W. Bush. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis contre l'avortement, contre le mariage gay et aussi pour la prière à l'école. Voilà, je voulais tout simplement dire que répéter les mêmes choses, ça marche. Il faudrait prendre exemple sur George Bush. Christ, 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 terrorisme. Voilà. Au revoir.
Eh oui, bien maintenant on en est sûr. C'est donc bien une nation de bœufs. Le seul avantage, c'est qu'au moins ça donnera du grain à moudre à la bassie j'y suis pendant les 4 prochaines années. Allez, ciao ciao, c'est Renaud.
Franchement, ça en serait bien passé. En tout cas, nuit blanche et en effet sur le répondeur de la bassie j'y suis. Merci pour l'auditrice très attentive qui dit en écoutant ceux que nous avons rencontrés aux États-Unis, suite de le reportage avec Guy Van Til, notamment en West Virginia. Effectivement, il n'y avait pas de quoi être surpris. On était parti avec notre question. Comment font-ils pour voter quand même pour Bush? Et on avait, je crois, apporté quelques éléments de réponse, pas toutes les réponses, mais quelques éléments de réponse en étant à l'écoute, en nous mettant à l'écoute de cette Amérique profonde qui effectivement a reconduit George W. Bush pour 4 années. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir la capacité de roupiller pendant 4 ans comme cet autre auditeur le suggère. Écoutez voir. Arafat abattu dans les Pyrénées, un ours élu à la Maison Blanche, le baron Sellière déçu de la réélection de Bush, car, dit-il, je cite, John et Teresa Kerry sont des amis de 30 ans. Fin de citation. Voilà, je viens de vous donner 3 nouvelles. Il y en a une seule qui est vraie dans les 3 nouvelles. Saurez-vous la reconnaître? Oui? Non? Eh bien, si oui, sinon, ça tombe très bien aujourd'hui parce que vous allez avoir des réponses à tout, puisque c'est l'émission mensuelle avec le monde diplomatique aujourd'hui, avec avec Serge Halimi, avec Bernard Cassen, avec Maurice Lemoine et avec Alain Grèche. On va évidemment parler du résultat des élections américaines. On va parler de la Constitution européenne. On va parler, ça va nous consoler un petit peu, au moins certains d'entre nous, des élections en Amérique latine, au Venezuela, évidemment. En Uruguay et de beaucoup d'autres choses, donc jusqu'à 18h l'émission mensuelle avec le monde diplomatique. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Il y a des jours où ça commence plutôt mal, comme aujourd'hui. Ce matin, on a la confirmation que les Américains sont bien une bande de ploucs. Et la deuxième chose, c'est que les deux abrutis, on en a aussi deux beaux spécimens là dans les Pyrénées, ceux qui viennent du sang de cannelle. Voilà, il y a des jours où ouais, je suis dégoûtée. Au revoir.
Bonjour, ici Alice Dornan du Doubs. Cannelle est morte, c'était la dernière femelle ours autochtone des Pyrénées, elle avait un petit. Je comprends pas comment on peut tuer en toute impunité des ours des Pyrénées, ou bien même prélever des loups qui reviennent d'eux-mêmes dans les Alpes. Dois-je parler également des lynx des Vosges ou du Jura, ou même encore des oiseaux migrateurs? À quand le prélèvement des chasseurs? Cannelle est morte et je pense à Louis et à tous les amis de la nature. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Bon, tout d'abord, bravo, merci, génial, toutes les émissions. Voilà, même la dernière que j'ai entendue m'a beaucoup plu sur la Fox, justement. Et c'est à propos de ça, il y a un truc qui me fout moi vraiment les boules sur notre bonne radio, sur France Inter. C'est bon, mais en ce moment de la pub, d'accord, plus de pub, ok, déjà c'est pas facile, mais en plus il y a de la fausse pub, c'est-à-dire qu'il y a du faux reportage. C'est-à-dire qu'en ce moment il y a une marque qui est avec un animateur qui se dit appelé Eric, qui est un mauvais comédien, et qui fait du public reportage. C'est-à-dire ils ont un générique, ils appellent un point c'est clair. Ils parlent de transparence, ces gens-là, et ils font croire, en gros, voilà, alors on a un faux journaliste qui interviewe bêtement un publicitaire, enfin même pas un annonceur, quoi. Et c'est vrai, ils mettent un générique au début, un générique à la fin, ils essaient de nous faire croire que c'est un... En plus, ils prennent la voix un peu de l'animateur qu'on a au 20h, enfin au 19h, hein, le soir sur Inter. Alors voilà, moi je trouve ça, c'est du public reportage, même dans la pub, les gens qui écrivent refusent d'en faire, parce que c'est... Voilà, c'est pas honnête, quoi, c'est pire que la pub. Voilà, voilà, donc j'espère que ma réaction en suscitera d'autres, et puis que j'ai pris moins de temps que la longueur d'un spot de pub. Sinon, bravo, et continuez bien. Ciao, ciao. C'était Mano de Montpellier. Ciao.
Alichotte, ah, le Béarn, terre de tradition, chasseur, rugby, bon vin, garbure, sans oublier la connerie. Eh oui, lundi, un trou du cul a tué Cannelle, la dernière ours autochtone des Pyrénées. Il invoque la légitime défense. Je suis particulièrement écœuré, quoi. La légitime défense. Attention les animaux, hein. Les chasseurs sont en légitime défense. Et les chassés ont battu dans une zone où on leur avait signalé la présence de l'ours. Enfin bref, quoi. Il y a eu un carton et comme de nombreux l'ont fait avant lui. Les risques, 10 000 balles d'amende, 5 ans d'interdiction de permis. Pas cher payé pour la destruction d'une espèce menacée, non? Les articles de Sud-Ouest sont édifiants, surtout l'un d'entre eux. Pauvre chasseur, un bon fusil pourtant. Aïe, 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 son nom n'est même pas cité, contrairement aux voleurs de poulets ou aux petits malfrats. Y aura-t-il enfin un jour des députés, des ministres suffisamment courageux pour endiguer ce lobby kaki? Allez, à Dichat, Bruno de Monin.
Pedro va à Paris. Traduction, Pedro va à Paris. Deuxième exemple. Don't beat about the bush. Traduction. Mais bon Dieu, mais bordel, mais tu vas arrêter de faire des conneries, Bush. Non, c'était pas terrible. Je le referai.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Serge Halimi, Bernard Cassel, Maurice Lemoine, Alain Grèche, l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
À mon avis, c'est Bush qui va gagner, bien que je ne le souhaite pas. Désolé, je pense que Bush va gagner.
Je viens du Tennessee. Je pense que Bush va gagner. Bush va gagner.
Je crois que Bush va trouver un moyen pour voler l'élection.
I voted for Bush. Oui, j'ai voté Bush.
Alors ici, on a les militants pro-Kerry et surtout anti-Bush qui sont en train d'entonner des chants sur fond de cantine de Noël. En gros, le texte dit « George Bush est fou, George Bush faudrait être envoyé dans un asile de fous et pour y arriver, il faut voter contre lui, voter contre lui ». On n'avait jamais vu autant de personnes mobilisées en France pour une élection pareille, l'ambiance est assez jeune.
C'est assez chic hein, comme ambiance.
Oui, c'est assez bobo, on va dire. Plutôt que chic, c'est assez bobo. Il y a plutôt des jeunes bien habillés qui sont pas dans la classe moyenne et qui pourtant disent qu'ils veulent voter Kerry, etc. C'est vrai que les gens commencent à devenir impatients à savoir si le résultat va sortir ou pas.
Les résultats sont sortis ?
Yes.
Hurra ! Oui, je viens de demander au barman. Il m'a dit américaine, non, mais Harris Bar. Alors en fait, c'est 419 pour le premier, 242 pour le second. C'est Kerry qui passe en tête, largement battu. Bush.
Voilà, c'était une petite photo sonore d'Anna Borel. Et c'était hier soir, cette nuit au Harris Bar rue Donneau à Paris, là où on a inventé le Bloody Mary, comme vous savez, peut-être. Et ben voilà, les bobos américains, comme les bobos parisiens, ont voté français, ont voté Kerry, et ils se sont planté. Mais nous, dans la base, si j'y suis, on vous avait donné les résultats. Pas plus tard qu'hier, on vous l'avait bien dit. Hier, exactement à cette heure-ci, nous avons appelé à New York notre consoeur Guillemette Fort, notre correspondante permanente spéciale de la base, si j'y suis. Et elle a répondu à la question... Qui sera le 44e président des États-Unis ?
Bush.
Bush ?
Ouais, je me trompe peut-être, hein, mais...
Mais tu prends le pari.
Ouais. Je me dis que les sondages n'ont pas bougé quasiment depuis un an, que Bush a déjà fait le pire de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire mentir au pays, faire une guerre inutile, avoir l'économie qui patauge, et que malgré tout ça, il a absolument jamais bougé dans les sondages. Alors que Kerry, il a suffi qu'il y ait une discussion sur la taille de ses blessures il y a 35 ans au Vietnam pour que tout d'un coup il perde 5 points dans les sondages. Déjà il y a ça qui me fait penser ça. En plus, même si les candidats sont à 50-50 dans les sondages, quand on demande aux gens qui ils pensent va gagner, les gens répondent quelque chose comme Bush à 55% et Kerry à 35%. Donc je me dis que ça veut dire que même chez ceux qui disent qu'ils vont voter Kerry, en fait, ils pensent pas qu'il va gagner.
Donc si pour résumer ton intuition à toi, Guillemette, c'est si Bush avait dû couler, il aurait déjà coulé.
Je me dis qu'il a déjà fait le pire et il est encore à peu près en bonne forme dans les sondages. Donc je me dis, ils doivent l'aimer alors.
George W. Bush, W. Bush, George W. Bush, W. Bush, George W. Bush.
Agaçant, hein.
W. Bush, George W. Bush.
Agaçant, hein.
W. Bush, George W. Bush.
Très agaçant.
W. Bush, George W. Bush.
Très agaçant, non? Très agaçant. Alors assurez-vous, vous ne pourrez pas faire l'heure là-dessus. Et l'avis donné par Guillemette Fort, on avait un autre, si vous avez écouté hier, on avait un autre confrère qui nous avait donné un autre pronostic. Donc dans les deux cas, on avait le bon, c'était pas plus compliqué que ça. Ok, bon, c'est très agaçant. Alors une raison de plus de rester avec nous jusqu'à 18h et avec l'équipe du monde diplomatique.
En los años 1600, cuando el tirano mandó
on va parler de ce qu'il n'y a pas dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois de novembre.
Il y a tout dans le numéro diplomatique du mois de novembre.
Dans tous les numéros du Diplo, il y a toujours tout. Mais enfin, dans celui-là, au moins, on ne parlait pas du résultat des élections américaines. Or, ça vient de sortir. D'abord, est-ce qu'on est sûr du résultat, Serge Halimi ?
Pour que Bush ne l'emporte pas, il faudrait que le décompte des derniers bulletins le fasse battre en Iowa, au Nouveau-Mexique et en Ohio. Et à l'heure actuelle, Bush est en tête dans ces trois États. Donc il est assez peu vraisemblable que sa marge d'avance soit inversée. Et là, il s'agit uniquement des grands électeurs qui naturellement déterminent l'issue d'une élection. Mais si on s'intéresse au suffrage populaire, d'ores et déjà, Bush a 4 millions de voix d'avance sur Kerry. Il a une majorité absolue de suffrage, ce qui est assez rare. Ça ne s'est pas produit maintenant depuis une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années.
Observation, réflexion, bilan.
Bon, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la participation électorale qui semble être très importante, qui pourrait approcher 60% des Américains en âge de voter, c'est-à-dire sans doute près de 70% des inscrits, ce qui n'est pas rien, qui confère à cette élection en quelque sorte l'apparence d'un véritable mandat pour Bush et pour les Républicains, puisque non seulement Bush l'emporterait et serait reconduit à la Maison-Blanche, mais le Sénat conforte, les Républicains confortent leur majorité au Sénat, ils confortent leur majorité à la Chambre des représentants, ils contrôlent 29 postes ou 28 postes de gouverneur sur 50, c'est-à-dire une majorité aussi. Ce qui veut dire que maintenant, Bush, qui avait été mal élu la dernière fois et que ça n'avait pas empêché de prendre des tas d'initiatives, se sentira tout à fait autorisé à en prendre d'autres. Il a déjà plus ou moins annoncé quelles étaient ses intentions, et ses intentions, c'est effectivement de poursuivre une politique de déréglementation, de privatisation des caisses de retraite, la privatisation des retraites, l'abolition des droits de succession, prendre des mesures contre les syndicats. Ce sont des mesures qui permettraient aux Républicains, en quelque sorte, de consolider leur position au pouvoir, de casser toutes les institutions qui permettent, en quelque sorte, une forme de résistance aux politiques libérales. Et la Cour suprême aussi, puisque là, à l'heure actuelle, il y a le président de la Cour suprême qui est très malade, qui pourrait disparaître à tout moment, en tout cas vraisemblablement dans les 4 ans qui vont venir, et qui sera remplacé par Bush, qui aura vraisemblablement l'occasion de remplacer un ou deux juges dans les 4 ans à venir, et qui a un mandat pour les remplacer par des juges très conservateurs. Parce que s'il y a aussi une dimension qui est frappante dans cette élection, c'est que quand on interroge les Américains qui ont voté pour Bush, en leur demandant quelle est la raison principale qui les a poussés à voter pour Bush, ils n'ont pas répondu l'économie, ils n'ont pas répondu la guerre en Irak, ils n'ont même pas répondu le combat contre le terrorisme, ils ont répondu les valeurs morales. C'est-à-dire que c'est une mobilisation fondamentaliste, religieuse, qui a joué et qui explique aussi qu'il y avait 11 référendums dans divers États sur la question du mariage homosexuel et de l'interdiction du mariage homosexuel, et que dans les 11 États, le verdict est le même, y compris dans un État progressiste comme l'Oregon. La majorité des Américains se sont prononcés ouvertement contre le mariage homosexuel, et j'imagine qu'un certain nombre d'électeurs qui ne se seraient peut-être pas déplacés s'il n'y avait pas eu cette question à l'ordre du jour se sont déplacés pour se prononcer contre le mariage homosexuel et en ont profité pour soutenir Bush et pour soutenir les Républicains. Alors il y a une autre caractéristique qui est frappante, mais celle-là, on l'a déjà évoquée avec vous, notamment en évoquant le cas de la Virginie occidentale. Une partie des catégories populaires et des États les plus pauvres ont voté à nouveau contre leur intérêt, puisqu'il est évident que les politiques de Bush ne les favorisent pas, que les politiques de Bush économiques, fiscales, favorisent les plus riches. Mais ils ont quand même voté pour Bush, en partie à cause de ces questions morales, mais aussi sans doute à cause d'une espèce de sentiment de ferveur patriotique qu'ils estimaient être mieux représenté par Bush que par Kerry. Il a donc emporté assez largement, il l'a emporté dans les États les plus pauvres.
Ils ont voté pour Bush aussi parce que ils ne connaissent pas Kerry, ils ne sont pas du même monde que Kerry.
Sans doute, c'est pour ça que justement le Sud maintenant est plus que jamais républicain. Il l'a emporté dans tous les États du Sud, 11 points en Virginie occidentale, 19 au Mississippi, 9% en Arkansas, qui est quand même l'État de Clinton, dans lequel il a fait campagne. Et alors, on peut quand même se poser des questions sur la performance démocrate. Si avec plus d'argent que les républicains, parce qu'ils ont dépensé plus d'argent dans cette campagne que les républicains, avec une économie
En mauvais les démocrates état, ont dépensé plus.
Ils ont dépensé plus lors de ces élections, parce qu'ils ont eu le soutien des artistes, des vedettes, des intellectuels, de George Soros. Donc ils ont réussi à dépenser plus d'argent que les républicains, qui en général ne manquent pas d'argent non plus. Avec une économie en mauvais état, une guerre qui se passe très mal, trois débats télévisés dont on dit, et c'est plus ou moins la vérité tout de même, qu'ils ont été gagnés par Kerry. Si malgré cela, les démocrates perdent, et ils perdent alors qu'ils ont l'appui de George Soros, de Sharon Stone, de Bruce Springsteen, des intellectuels, de Hollywood, de la presse, de Eminem.
Et de Sarkozy.
Et sans doute de Sarkozy, et de la presse française d'ailleurs, qui a semblé faire campagne pour les démocrates. Parfois on se demandait si c'était vraiment de l'information ou du dépliant publicitaire. C'est qu'il y a un vrai problème, et qu'en tout cas, l'appui qu'ils ont recherché, qu'ils ont obtenu auprès des milieux branchés, intellectuels, bohèmes, bourgeois, c'est devenu le baiser qui tue auprès des catégories populaires. Et effectivement, on en faisait la remarque, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé au moment des élections municipales en France, où vous aviez dans les villes les plus bourgeoises une victoire du Parti Socialiste. On pense à Paris, on pense à Lyon. Et puis, dans les villes de la ceinture rouge, une victoire de la droite.
Revolution. Don't you believe it? Accomplished liars. All that you knew was what I told you.
The world of evil. A new and evil tide.
He's a dangerous
there
man.
There is much evil in this world.
Jumping all over my, you know what.
The number one drug trafficker in the government is the problem.
I believe
I was not elected.
I would be delighted to take credit for it.
In this name and war on terror, it ought to be the struggle against ideological extremists who do not believe in free societies, who happen to use terror as a weapon to try to shake the conscience of the free.
You're going
to
be destroyed.
Read by my lips.
My vote is not for sale.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a quand même une mobilisation importante de tous les côtés, hein, et notamment du côté des démocrates. On a vu ce déploiement, vous l'évoquiez rapidement, des artistes, des chanteurs, des intellectuels, des médias, etc. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ça va être un abattement des intérêts ou une mobilisation pour la prochaine échéance?
Je crois que dans une première étape, ça va être un abattement, parce que là, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Encore une fois, ils avaient tous les atouts, en quelque sorte, de leur côté, puisque le bilan économique de Bush était mauvais, sa guerre en Irak était une débâcle. On peut pas dire qu'il soit particulièrement charismatique, il avait perdu les trois débats, et en dépit de cela, il l'emporte, et il l'emporte assez largement. Donc il va y avoir, j'imagine, une espèce de retour critique sur le comportement des démocrates, sur leur stratégie, sur leurs priorités, sur l'univers auquel ils appartiennent de plus en plus. On publie dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci un article qui est une enquête sur la formation des élites aux États-Unis, et on s'aperçoit que Bush, comme Kerry, sont issus de la même université d'élite, sont passés par des lycées d'élite privés, appartiennent à la même société secrète. Donc on a en quelque sorte le parti qui devrait s'adresser à l'électorat populaire, qui est presque systématiquement représenté par des millionnaires. Kerry, comme John Edwards, était millionnaire, et il est évident qu'il n'avait pas l'art et la manière de s'adresser à l'électorat populaire, Kerry en particulier. Donc je crois que dans une première étape, les démocrates vont se poser des tas de questions. J'imagine que la tendance conservatrice dira que si l'élection a été perdue, c'est que les démocrates n'ont pas été assez à droite, en particulier sur la question des valeurs morales, qu'ils ont été trop à gauche sur les questions économiques, puisque quand vous possédez en quelque sorte l'appareil d'interprétation idéologique, vos victoires, vous les interprétez comme une victoire du conservatisme, et vos échecs comme le fait que vous n'avez pas été assez conservateur. Et il y a une structure idéologique aux États-Unis qui fait que les défaites du Parti démocrate ne sont jamais interprétées comme la conséquence de son absence de radicalité économique. Mais comment vous allez mobiliser l'électorat populaire si vous ne lui dites pas que vous allez, en quelque sorte, améliorer ses conditions d'existence? Bon, Kerry l'a fait un peu, mais depuis que les démocrates sont au pouvoir, ils l'ont fait très peu, à tel point que cette question a été écartée progressivement du débat politique, et que ne sont restées dans le débat politique que les questions qui avaient tendance à favoriser le plus les points de vue de droite. Mais c'est ce qu'on observe dans d'autres pays que les États-Unis, malheureusement. Il y a une espèce de fixation sur des questions culturelles, symboliques, qui est une fixation très largement entretenue par les médias, parce que pour eux, c'est plus facile, c'est les débats de société traditionnels, qui jouent de plus en plus en faveur des conservateurs. Quand vous avez un univers économique qui est de plus en plus déstabilisé par le libéralisme, par cette espèce d'engrenage libéral, eh bien, vous vous raccrochez à des valeurs traditionnelles qui sont en quelque sorte la seule chose qui vous reste dans un monde qui bouge et qui bouge trop vite.
Si Kerry et si les démocrates avaient fait une campagne et avaient fait des propositions plus sociales, plus en direction des couches populaires et des chômeurs, etc., vous pensez qu'ils auraient gagné ?
Ça, on peut pas le savoir. On constate qu'ils n'ont pas fait cette campagne et que ça fait très longtemps que les démocrates ne font pas de cette campagne-là, de cet axe-là, leur priorité, et ne peuvent pas faire de cet axe-là leur priorité dans la mesure où ils sont de plus en plus financés par des lobbies industriels. Dans la mesure où les campagnes coûtant de plus en plus cher, l'électorat qu'on sollicite en priorité et l'électorat, enfin plus exactement, les contributeurs qui payent le plus. On sait par exemple que si les millionnaires ont tendance à voter majoritairement pour Bush, les multimillionnaires ont tendance à voter majoritairement pour les démocrates. Et il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème quand le financement des campagnes est très largement réservé aux gens les plus riches que vous devez courtiser, aux lobbies industriels que vous devez courtiser. Et ben là, vous ne pouvez pas activer des thématiques populistes au plan économique.
Bernard Cassin,
ça pose véritablement un problème de fond sur ce qu'est la démocratie, parce que une démocratie qui revient à donner le pouvoir d'influence aux plus riches en créant des engrenages irréversibles, quelle signification a-t-elle? Alors je ne sais pas si le débat aux États-Unis va s'engager sur ce terrain-là, mais je crois qu'on peut se féliciter, par exemple, qu'en France les campagnes politiques soient sévèrement encadrées par la loi, qui est un plafond aux dépenses, ce qui n'est pas le cas bien sûr aux États-Unis. Et moins il y aura de plafond, plus on reconduira des situations de ce genre. Alors évidemment, tout le monde va dire très grande victoire démocratique, il y a eu davantage de participation électorale, davantage d'inscrits, et force est de constater que tous ceux qui se sont inscrits ou ont voté ont fait la queue pendant des heures, 4 heures, 6 heures, ils ont fait la queue pour aller voter pour Bush. Au Venezuela, et Maurice Lemoine ne me démentira pas, ils ont fait la queue pour aller voter pour Chavez.
Un amor sincero nunca se puede olvidar. Un amor sincero nunca se va a detener. Son asesinos profesionales. Se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa. Aunque no haya hecho ningún mal, despiadados y con resentimiento, salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas, descargar una y otra vez contra gente indefensa de la población, de su cultura, caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar.
Arrastran y queman culturas enteras, sí. Arrastran y arrastran hasta la miseria, hasta la desesperación.
Alors justement, on continue avec Maurice Lemoine qui va nous raconter ce qui se passe l'Amérique. Il n'y a pas que l'Amérique dans l'Amérique. Il y a aussi d'autres Amériques.
Oui, bien sûr. D'autres
Amériques sont possibles.
Oui, pendant que l'Amérique du Nord croit s'en tirer en pratiquant le bouche à bouche, au Sud, on respire beaucoup plus librement, hein, puisque on a eu une série de victoires électorales de la gauche. Non, quand je dis on a eu, je
on
parle
a constaté,
en tant qu'observateur, excusez-moi, je... en tant qu'observateur, dont la plus spectaculaire est la victoire à la présidentielle uruguayenne de la gauche. C'est la première fois en 170 ans de vie électorale que la gauche arrive au pouvoir avec Tabaré Vázquez, au sein d'un parti, le Front élargi, le Frente Amplio, dans lequel on trouve d'anciens guérilleros, anciens tupamaros, de la guérilla urbaine des années 60, Et c'est évidemment un signe. Mais on a eu aussi, vous allez me dire que c'est un grand classique, une victoire électorale de Chavez au Venezuela, où on avait des élections pour les gouverneurs.
Ça c'est déjà, on le savait déjà.
Non. Vous faites référence au référendum du 15 août dernier. Mm-hmm. Mais ce week-end, pendant que tout le monde avait les yeux fixés sur les États-Unis d'Amérique, le Venezuela votait, et on a encore une victoire de Chavez qui confirme la victoire du référendum, puisque à l'heure où nous parlons, il y a peut-être encore des toutes petites différences, mais il a remporté 20 gouverneurs sur 22, la mairie, la grande mairie de Caracas, le Grand Caracas. Il y a également une victoire intéressante, un élément intéressant au Chili, où la Concertation démocratique, donc du président Lagos, l'a aussi emporté au municipal. Et puis si on prend le Brésil, avec quelques nuances, puisque Lula a perdu Porto Alegre et São Paulo, on a une victoire de la gauche et du PT. Avant que Bernard nous parle de Porto Alegre, parce que je le sens frémir.
Bernard a perdu Porto Alegre aussi, on va en parler.
Je crois en même temps qu'il faut un tout petit peu, évidemment, nuancer le plaisir qu'on exprime comme ça, en voyant cette série de victoires. Il est évident que quand on parle de la gauche en Amérique latine, on parle souvent de choses qui sont quand même très très différentes. Hein. On a deux types, en fait, de gauche actuellement au pouvoir en Amérique latine. On a une gauche qui est arrivée au pouvoir dans des conditions de crise totale sociale, politique, économique. Et là, je pense évidemment à l'Argentine et au Venezuela de Chavez. Et puis, on a une gauche qui arrive dans une situation politique beaucoup plus stable, beaucoup plus installée, qui c'est la gauche de Lula, qui est la gauche de la gauche et de Tabaré Vázquez en Uruguay. Et puis, on a aussi deux types de gauche. Une autre définition, c'est qu'il y a la gauche qui fait des réformes et celle qui n'en fait pas. Hein. Et dans ce domaine, c'est vrai que le seul, pour le moment, dont on peut dire que réellement il est en train de tenter de mener un processus de transformation sociale, c'est Chavez au Venezuela. Kirchner se débat avec le Fonds monétaire international d'une manière assez courageuse d'ailleurs. Pour le reste, on est bien obligé de constater qu'aussi bien Lula au Brésil, il y a peut-être un début d'explication dans la perte, en particulier de São Paulo, beaucoup plus que Porto Alegre, qu'il n'y a pas de réforme, mais qu'il y a quand même un début de déception profonde qui se manifeste au sein des mouvements populaires.
Bernard Cassen, alors Porto Alegre, c'est quand même un symbole important, c'est devenu un mot même important, et là, il semblerait bien que la droite ait repris Porto Alegre.
Oh, c'est pas vraiment la droite. Il faut voir que les partis politiques au Brésil sont très régionalisés. Il y a des coalitions locales qui sont pas les mêmes que les coalitions nationales. À Porto Alegre, il y avait un problème d'usure du PT qui était au pouvoir depuis quatre mandats. Et dans la coalition gagnante, il y a des gens de gauche, même du Parti communiste du Brésil. Donc c'est pas un clivage gauche-droite. Hein. C'est un clivage PT et non PT. Et il y a une coalition de tous les autres partis, tous sans exception, contre ce qu'ils percevaient comme l'hégémonie du PT. Alors, ça ne change strictement rien à Porto Alegre en tant que siège du Forum social mondial. Vous savez, tenir un forum à Porto Alegre qui attire 120-130 000 personnes provoque l'enthousiasme des chauffeurs de taxi, des hôteliers, des restaurateurs, enfin de tout le secteur économique, surtout que ça se passe pendant les vacances, on est dans l'hémisphère.
Mais à Davos aussi, les taxis sont contents.
Oui, mais il y a moins de monde à Davos quand même.
Le peuple suisse
applaudit, trépigne.
Non, le peuple suisse est fort mécontent du déploiement policier et militaire qui coûte très cher aux contribuables helvétiques. Donc ça ne change à rien, et d'ailleurs le gouverneur, le PT avait déjà perdu le poste de gouverneur de l'État il y a 2 ans, il a perdu la mairie, mais ça ne change absolument rien au Forum social mondial.
Qui aura lieu à Porto Alegre.
Qui aura lieu à Porto Alegre du 26 au 31 janvier, exactement comme prévu, avec les mêmes soutiens. Porto Alegre est éternel et au-delà des alternances politiques.
Voilà, on va retrouver dans un instant l'équipe du Monde diplomatique, mais on a un petit flash spécial, Bruno Duvic.
Oui, le 44e président des États-Unis devrait bel et bien s'appeler George Bush. Ce n'est pas encore officiel, mais une étape décisive vient d'être franchie, puisque le candidat démocrate John Kerry reconnaît sa défaite dans l'État de l'Ohio, qui était encore disputé. Et dans la course à la présidence des États-Unis, il a appelé George Bush pour le dire. C'était après 17h, heure de Paris. Prochaine étape vers 19h, heure de Paris, le candidat démocrate Kerry doit s'exprimer. Il devrait reconnaître publiquement sa défaite. Intervention de George Bush, sans doute attendue dans la foulée, Daniel.
Merci Bruno. On retrouve l'équipe du Monde diplomatique. On retrouve Maurice Lemoine avec un sujet dont nous avons parlé au cours de ces reportages, l'affaire de la privatisation de la guerre, les PMC. Maurice Lemoine.
Hey,
Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today? Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Alors, on continue. Alors là, c'est vraiment, on va parler de ce qu'il y a vraiment dans le numéro du mois de novembre. C'est un dossier sur la privatisation de la guerre. On pourrait appeler ça comme ça.
Oui, oui, c'est un long dossier dans auquel ont contribué un certain nombre de gens très compétents dans la matière, comme Sabine Maki, comme Philippe Lemarie, Hernando Calvo-Espina, je suis en train de chercher le nom de...
P.W. Singer.
Et Barbara Vigneault, ça y est, voilà, j'ai trouvé. Sur la privatisation de la guerre, en fait, on revient un petit peu sur les mercenaires et le mercenariat. Alors, évidemment, on évoque le mot mercenaire, tout de suite viennent à l'idée des noms comme Bob Denard, Jean Schramm, René Faulk, l'ex-colonel Trinquier, le Biafra, le Congo. Ça a bien changé tout ça, hein. Ça c'était le mercenariat artisanal, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, le mercenariat, il fait même son intrusion dans le Tour de France. Figurez-vous que vous suivez le Tour de France.
C'est sûr.
Mais, figurez-vous qu'en regardant les résultats de cette année, vous verrez qu'à la troisième place par équipe figure l'équipe CSC, l'ancienne équipe de Laurent Jalabert, et puis que le troisième individuel, Yvan Basso, appartient à cette équipe CSC.
Les voilà avec Yvan Basso en tête. Yvan Basso, le coin de l'équipe, CSC qui va donc...
CSC, qu'est-ce que c'est que CSC ? CSC, en fait, c'est Computer Science Corporation, qui est une transnationale liée aux forces de sécurité américaines et qui est propriétaire de DynCorp, qui est une société militaire privée qui est une des préférées de Washington. De la même manière, on ne sait pas trop qu'en Irak...
DynCorp est très présent en Irak.
DynCorp est présent en Irak, DynCorp est présent en Colombie, DynCorp est présente dans les Balkans, DynCorp est présente partout. De même qu'en Irak, avec la dégradation de la situation, on sait pas très bien en fait que 20% de la force d'occupation est constituée par des sociétés militaires privées. Hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein, c'est 20% des forces américaines. Alors, difficile de parler de mercenaires aujourd'hui, puisqu'on a affaire à des firmes, hein, à des sociétés de deux types. En gros, il y a les fameuses sociétés militaires privées dont je parle, qui disposent de capacités permettant d'envoyer des forces à l'extérieur, lutter contre un ennemi, à la demande de gouvernement ou de groupes, quels qu'ils soient. Mais il y a aussi des sociétés de sécurité privées, qui elles sont plutôt dans le service, le conseil, l'assistance technique, et qui sont pas censées participer à des combats. Ce qui fait que la définition est assez floue et que tout le monde, évidemment, joue là-dessous.
Il y a certaines de ces sociétés qui font de la logistique tout à fait pacifique. Hein, voilà, donc on amalgame le tout et...
On amalgame le tout et donc, ça empêche de parler de mercenaires, y compris ça pose d'énormes problèmes par rapport aux lois internationales, puisqu'il est extrêmement difficile de définir ce qu'est exactement un mercenaire, ce qu'est exactement le statut de ces boîtes privées. Du coup, les juridictions internationales sont tout à fait démunies face à ce phénomène. Alors, phénomène, il y a plusieurs raisons, hein. On va évidemment aller vite, parce que c'est un dossier qui mériterait des heures et des heures, vous l'avez déjà abordé. Ça s'inscrit évidemment dans le phénomène de la mondialisation néolibérale. C'est pas un dada chez nous, mais c'est la simple observation des faits. On a la mondialisation des industries militaires, hein, bien sûr. On a la réduction des armées. Hein, souvent pour des raisons budgétaires. Et puis là...
Et là on accuse Clinton aux États-Unis d'avoir baissé les effectifs militaires.
Et puis là, entre guillemets, rationalisation des dépenses de défense. Je dis rationalisation des dépenses de défense entre guillemets, parce que quand on observe réellement le phénomène, on se rend compte que ça fait pas forcément faire des économies. Par exemple, si on prend la période qui va de 1994 à 2004, 3000 contrats d'externalisation, comme on appelle, ont été passés par le gouvernement des États-Unis pour 30 milliards de dollars. Je dis bien 30 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en fait, il y a un fabuleux pactole, hein, qu'on est en train de sortir de ce qu'étaient les armées pour le distribuer au privé. Et puis quand on regarde au-delà de la pseudo-rationalisation budgétaire, on a évidemment une pensée stratégique, c'est que les États-Unis en particulier, mais c'est vrai aussi à un moindre niveau pour les pays occidentaux, sont engagés dans une espèce de guerre de basse intensité globale contre le terrorisme, et que donc, engagés dans des combats bien précis, comme par exemple l'Irak en ce moment, elle ne peut pas non plus abandonner d'autres terrains qui sont tout autant stratégiques, et là elle va déléguer cette tâche à ses compagnies privées.
Well, the interesting thing is that I never know what I'm going to encounter when I come to work in the morning.
Ce qui est intéressant, c'est que chaque matin quand je viens au boulot, je sais jamais ce qui va m'attendre.
Friday afternoon at 5:30, almost every week we got some.
Et généralement, toutes les semaines, le vendredi soir vers 5h30, il y a toujours quelqu'un qui nous appelle de l'autre bout du monde pour nous demander quelque chose d'incroyable.
We are very similar to a private military company in some areas, and we hope to do more in that area in the future because we think it's a growing and expanding marketplace today.
On a beaucoup de points communs avec ces sociétés d'armée privée, et d'ailleurs on a l'intention de s'implanter de plus en plus sur ce marché-là parce que c'est un marché à forte potentialité de croissance.
Boards of directors and top corporate officials, they encounter a world of new problems, and when something happens,
oui, parce que aujourd'hui les PDG des grandes sociétés doivent faire face à de nouvelles menaces et de nouveaux dangers, et ils ont besoin de pouvoir décrocher le téléphone et de faire appel à nous comme à la cavalerie pour faire face à toutes ces demandes.
1, 2, 3 Vietnam, maintenant c'est plus possible. Ou sur le troisième Vietnam, on envoie des privés.
Oui, tout à fait. Ce qu'il appelle les compagnies privées, c'est la société civile patronale.
Voilà, hein, oui, alors les noms, c'est, on les connaît, hein, c'est Sandline International, c'est Vinel Corporation, c'est Wakenhut, Emperi, Dincorp, KBR à Liberton, qui jusqu'en 2000 appartenait au vice-président Richard Cheney, Dick Cheney. Et puis alors ça a un avantage, cette privatisation de la guerre, parce qu'en fait il faut appeler les choses par leur nom, c'est que ça permet pas mal de coups tordus. Ça a toujours été un petit peu ça dans le mercenariat d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que les États utilisaient des groupes informels pour mener à bien discrètement des politiques d'État. Mais si on prend le cas des États-Unis, ça permet de mener à bien des missions qui, pour des raisons politiques, seraient pas forcément bien vues, soit par l'opinion publique, soit y compris par le Congrès. Hein.
Un cercueil de mercenaires qui revient, c'est
un des exemples.
C'est un risque du métier.
Tout à fait. Ouais. Un des exemples les plus notables, ça s'est passé en Bosnie, à l'époque où les États-Unis était impliqué dans l'IFOR, donc la force de neutralité et de maintien de la paix, donc position neutre, et en même temps avait autorisé MPRI, qui est une boîte privée, à se livrer à un trafic d'armes, malgré l'embargo sur les armes, et à former l'armée de la Fédération croato-musulmane, qui préparait son offensive sur la Krajina. Hein, c'est-à-dire que d'un côté on est neutre, et de l'autre côté, en sous-main, je veux dire, on est une force belligérante. On a même eu un cas, toujours MPRI d'ailleurs, en Sierra Leone, qui a livré des armes aux deux parties en présence dans le conflit.
C'est ça la neutralité.
L'objectivité.
Hein. Et puis si je prends le cas de la Colombie, toujours par rapport au Congrès américain, le Congrès américain a autorisé la présence en Colombie de 800 militaires, ce qui est déjà beaucoup entre parenthèses. Hein. Je rappelle qu'au Salvador, au début des années 80, il y en avait que 200. Mais donc 800 militaires américains, mais 600 sous-traitants américains. Alors pourquoi je précise américains ? Parce que ces boîtes, effectivement, ont droit d'avoir 600 sous-traitants américains. Mais évidemment, elles se sont empressées de recruter des Salvadoriens, des Péruviens, des Boliviens, etc. Ce qui fait qu'en fait, la présence militaire informelle est beaucoup plus importante que ça. Et puis c'est évidemment un excellent relais pour la diffusion des normes militaires américaines et occidentales. Hein. Les États-Unis, à travers ces private military companies, ont formé et entraîné les forces armées dans plus de 40 pays. Hein, au cours de la dernière décennie. Alors dans des pays aussi démocratiques que l'Arabie Saoudite, l'Angola, le Guinée équatoriale, Haïti, on a formé la police en Haïti avec les résultats magnifiques qu'on connaît, au Nigeria. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est qu'en ce moment, ces boîtes sont en train de faire du lobbying pour se présenter comme des opérateurs fiables dans les opérations de maintien de la paix. Ces entreprises servent les intérêts des États, hein, de même que les mercenaires folkloriques, les corsaires de la République à l'époque servaient sous les ordres de Focard. Pour aller très très vite, je veux dire, ces compagnies privées servent les intérêts de l'État, et en fait, leur émergence ne se fait pas en rupture avec les services gouvernementaux, mais ça permet aux élites, d'une certaine manière, de transférer des fonds qui jusque-là étaient destinés au public vers le privé, pour le plus grand profit de ceux qu'on connaît bien. Je prends juste un exemple pour terminer, c'est HK Halliburton, donc l'ex-firme de Dick Cheney, qui a actuellement d'énormes problèmes avec la justice. Palace Pascal a surfacturé.
Mais là, ça y est, c'est réglé les problèmes.
C'est réglé, je suis encore en retard. Pascal a surfacturé.
Si Bush est élu, c'est réglé.
Ah oui, c'est vrai. Pascal a surfacturé d'une manière absolument éhontée la fourniture de nourriture, de machins, de repas et tout ça en Irak. Hein, c'est-à-dire, en fait, ils font du fric sur la guerre. Et en gros, pour finir, je dirais que le problème de ces compagnies militaires privées, elles s'effectuent aux marges, en fait, de la responsabilité politique. politique et que malheureusement elle préfigure les guerres de demain, puisqu'en fait ce qui se passe en Irak aujourd'hui c'est jamais que l'expérimentation de ce que les États-Unis veulent étendre à l'avenir.
Alain Grech.
Une des conséquences les plus graves de cette privatisation, c'est que les guerres sont en train de devenir sur le terrain des guerres totales. C'est-à-dire des guerres dans lesquelles l'intervention occidentale, dans ses différentes formes, est perçue comme faisant partie de la même intervention. C'est-à-dire, on voit bien en Irak aujourd'hui, il y a les soldats américains, il y a les compagnies de sécurité, il y a les compagnies privées, et il y a les ONG. Et petit à petit, aux yeux des populations, c'est la même intervention. Et donc, du coup, les ONG, d'ailleurs, les ONG reprochent ça aux politiques. C'est-à-dire la manière de les impliquer dans cette espèce de déploiement global a des conséquences très graves, parce qu'elles les désignent comme des cibles au même titre que les militaires. Et on a vu, d'ailleurs, à un moment, on parlait de... Un des premiers incidents graves qui a eu lieu en Irak, c'était à Fallujah, quand il y a eu ces quatre... personnes qui ont été d'abord tuées puis ensuite brûlées et pendues, c'était quatre personnes des compagnies de sécurité. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils font partie des militaires? Est-ce qu'ils n'en font pas partie? Mais pour la population, ça veut dire qu'ils font partie. Donc pratiquement tous les aspects de l'intervention occidentale sont une partie d'une même intervention. Et ça, comme conséquence de transformer l'affrontement qui au départ est un affrontement entre militaires et guérilleros en un affrontement global entre les étrangers et nous. Et c'est très grave des deux côtés, parce que ça veut dire les clivages, ça veut dire aussi des actes abominables contre des travailleurs des ONG, etc. Mais je crois que c'est vraiment inquiétant. Et il y a une prise de conscience, par exemple, par les ONG qui ont protesté, notamment en Afghanistan et en Irak, sur la manière dont elles sont utilisées. Elles ne peuvent plus faire le travail, parce qu'elles ne sont pas considérées par les acteurs sur le terrain comme des acteurs neutres, à juste titre, parce qu'elles sont déployées dans un cadre global. Et ça, je trouve que c'est une évolution très grave.
Pas le temps d'évoquer la Constitution européenne, mais c'est dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Merci à tous. Merci Bernard Cassen, Maurice Lemoine, Serge Halimi, Alain Grech. Merci aussi à Guillemette Faure à New York. Merci aussi à Anna Borel. C'est son premier reportage en là-bas, si j'y suis. La réalisation, c'est Antoine Chao. Yann Chouquet, c'est les musiques. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et Pascal Le Pascariello, notre assistante, vous conseille d'aller voir Los Muertos de l'Argentin Lisandro Alonso. C'est son film du jour. Il va être bientôt 17h56 sur France Inter. Le temps de nous quitter, de vous dire à demain à 17h pour là-bas si j'y suis. Et on va retrouver tout de suite, après la réclame, après les pubs, on va retrouver à New York l'équipe de France Inter dans le charivari de Frédéric Bonneau. Salut, à demain.